sens ça. Alors bonjour tout le monde, je suis très content d'être là devant vous. Alors normalement je devais pas du tout intervenir ici parce que je connais absolument pas votre église. Donc c'est Ruben qui devait faire le message aujourd'hui, je sais pas si vous le connaissez parce qu'apparemment c'est pas quelqu'un de votre église. Et donc il m'a appelé avant-hier pour me demander de le dépanner. Et donc je connais pas du tout Ruben non plus. Mais donc on a parlé ensemble au téléphone et il m'a dit qu'il avait des problèmes personnels et je lui ai promis qu'on commencerait en priant pour lui. Donc ce qu'il m'a dit c'est que son beau-père était très gravement malade et donc lui et sa femme ils allaient devoir partir au Madagascar pour le voir. Donc le père est chrétien, il est même responsable d'église. Mais donc voilà, est-ce que juste quelqu'un, un frère, une sœur peut spontanément prier pour Ruben, sa femme et puis le beau-père? Ah mince. D'accord, on prie pour la famille alors. Voilà, donc je connais très peu de personnes parmi vous, donc juste pour très vite me présenter, je m'appelle Tobias, là j'habite dans la banlieue nord, dans le 95, et je suis dans l'église de Taverny. Je suis un ami de Clément et de Mike, et Clément, je fais le R2E avec lui. Voilà, j'ai 22 ans, je viens de terminer mes études d'ingénieur, voilà pour ma vie. Donc je suis super content d'être parmi vous, donc comme j'ai dit, je connais pas votre église, je connais pas du tout le contexte sinophone, je ne connais pas la ville non plus. Ce matin, je suis allé sur le site de la RATP pour taper le nom, j'ai écrit Saint-Maur, M-O-R, M-O-O-R, j'ai pas trouvé. Donc je connais pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai été béni pendant les moments d'adoration à la louange. Je suis tellement touché à chaque fois que je vais à un endroit que je connais pas et puis de voir il y a des frères, il y a des sœurs, on a les mêmes chants, on a le même amour pour Christ et ouais, ça me fait du bien. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on se penche sur un texte, du coup tant pis pour le suspense, que vous connaissez tous et je pense que vous connaissez tous depuis très longtemps et vous connaissez très bien. Il se trouve dans l'évangile de Marc entre autres et je suis persuadé que c'est un texte qui est extrêmement crucial, c'est un texte clé. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai vérifié ce matin, de toutes les œuvres que Jésus a faites, de tous les miracles, de tous les prodiges, de tous les actes étonnants, surprenants, miraculeux, c'est le seul qui est rapporté par les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, je pense que si, dans la parole de Dieu, les évangélistes inspirés par le Saint-Esprit ont tous pris la peine de relater cette épisode, Dieu a quelque chose de très particulier à nous dire. Alors je veux pas prendre cette autorité en disant que c'est forcément ce que moi je vais vous apporter, mais c'est pour attirer votre attention sur ce texte. C'est un texte clé, c'est un texte que Dieu a mis quatre fois dans sa parole. En fait, dans ce passage, Dieu donne un ordre à ses disciples. Je pense que c'est un des ordres les plus importants qu'il leur a jamais donné. Sauf que c'est un ordre qu'ils étaient complètement incapables de réaliser. Si j'en parle ce matin, c'est parce que je suis persuadé que Dieu nous adresse aujourd'hui exactement encore le même ordre et qu'on est encore autant incapable de réaliser. Juste, on va lire le passage, je vous donne en deux phrases le contexte. Donc Jésus, a quelques jours ou quelques semaines avant, on ne sait pas exactement, il a pris ses disciples deux par deux et puis il les a envoyés dans les différents villages et là-bas ils ont prêché l'évangile, ils ont appelé les gens à la repentance, ils étaient investis d'une autorité particulière pour chasser les démons, pour guérir des maladies, ils viennent de vivre des jours ou des semaines extrêmement riches. Jésus, il a fait la même chose de son côté et puis là, ils reviennent tous ensemble pour partager ce qu'ils ont vécu, sauf que il y a une nouvelle triste et finalement ça rentre peut-être bien dans notre contexte aujourd'hui, c'est que l'ami, le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, a été décapité. Donc dans ce contexte où ils sont en fait tristes et fatigués, on va lire ce passage dans l'évangile de Marc. Donc c'est bon, c'est affiché, sinon vous pouvez prendre vos Bibles, c'est dans l'évangile de Marc chapitre 6. Puis on va lire les versets 30 à 44. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent et s'en allèrent et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner longuement. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent, répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire asseoir tous sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait et des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. L'évangile de Matthieu a ajouté, sans compter les femmes et les enfants. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce passage merveilleux que tu as placé dans ta parole pour qu'on sache ce que tu as fait. Et je te prie juste pour les instants qui vont suivre, que tu viennes vraiment ouvrir nos cœurs à ta parole. Seigneur, je te prie que tu viennes m'inspirer par ton Saint-Esprit, que tu me donnes d'annoncer ce que tu as à dire ce matin, que je ne dise que la vérité, et ni plus ni moins que ce que toi tu as à dire. Amen. Les 4 évangiles relatent la multiplication des pains pour les 5000 hommes, et Marc et Matthieu vont en plus relater une deuxième multiplication des pains pour 4000 hommes, ça veut dire 6 fois on a le passage de Jésus qui, avec quelques pains, nourrit toute une foule. Pourquoi 6 fois dans la parole de Dieu? Quel est l'enseignement que Dieu veut nous donner à travers cela? On va revenir au début du texte et je voudrais juste qu'on se mette vraiment à la place des disciples. Donc, ils viennent de passer une semaine super chargée, ils ont vu Dieu à l'œuvre, ils ont œuvré pour Dieu. Ils reviennent tous pour se voir ensemble et là ils apprennent que Jean-Baptiste, cet ami, ce mentor, a été décapité. Je vous rappelle que plusieurs des disciples de Jésus étaient avant des disciples de Jean-Baptiste, donc c'est quelqu'un qui connaissait intimement. Il y a la tristesse, il y a la peur. Si Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste, est-ce qu'il va mener un raid contre tous ceux qui étaient proches de lui? Puis dans ce contexte, il y a la foule qui les presse, parce qu'ils tous ils veulent des miracles, Jésus donne des miracles, et ils n'ont même pas le temps de manger. Donc, les disciples qui sont abattus, ils sont fatigués, ils ont faim, je pense qu'ils sont à bout physiquement, émotionnellement, psychiquement. Et là, Jésus, il propose une retraite, il propose des vacances. Et puis ces vacances sont amplement méritées, après tout ce qu'ils ont finalement sacrifié pour Dieu, après tout ce qu'ils ont donné pour Dieu ces derniers jours. Sauf qu'ils sortent de la barque, et puis voilà, il y a toute la foule qui les a suivis, tout le planning est bouleversé. Puis ça, c'est la première question que je me pose quand je dis ça, c'est comment est-ce que moi, je réagis quand moi, je suis à bout, et je rencontre quelqu'un qui a besoin de moi. Quand mon repos est plus que légitime, que je rentre exténué, et que là, il y a ma mère, une coloc, selon la femme, qui a besoin d'un coup de main. Ou après une semaine de service, d'évangélisation, t'as donné pour Dieu, t'as même donné plus que d'habitude pour Dieu, et là tu rencontres encore quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, d'une prière, d'écoute. Comment est-ce que tu réagis? Les disciples, eux, ils avaient déjà largement donné de leur personne pour Dieu au cours des dernières heures, au cours des derniers jours. Et si à ce moment précis, ils se seraient contentés de ce qu'ils avaient déjà fait, ils n'auraient jamais vu la multiplication du pain. Si nous, on ne sort pas de notre mentalité du « j'ai déjà assez fait », je fais déjà plus que les autres, j'ai déjà assez donné pour Dieu, on risque de passer à côté de la multiplication. Alors, Jésus vit, je pense à ce moment-là, il a juste besoin de solitude. Il a juste besoin de passer un moment dans la prière avec son Père. Et puis il voit cette foule devant lui. Et il est ému de compassion. À un point qu'il oublie tous ses propres besoins. Il voit cette foule, il voit leur perdition et ça lui crève le cœur. Alors sa propre tristesse, sa fatigue, sa faim, tout ça, il laisse de côté. Comment est-ce que moi je réagis face à la perdition des âmes autour de moi? Est-ce que j'y suis sensible? Est-ce que ça me touche encore? Ou est-ce que ma propre galère, mes propres besoins qui sont légitimes, ils m'absorbent tellement que ma compassion, elle est complètement absorbée? Vous savez, moi je suis souvent consterné par la dureté de mon cœur. Ça me fait peur. Quand je vois à quel point mes propres besoins ils sont plus importants que les besoins des gens qui se perdent autour de moi, quand je vois que ma Freebox en panne, ça me touche plus que mon pote qui va en enfer. Alors Jésus, il va les enseigner. Et j'aime bien ce petit mot, il va les enseigner longuement. Alors l'évangile de Marc, on dit que c'est Pierre qui l'a dicté à Marc. Donc si l'apôtre Pierre, plusieurs dizaines d'années plus tard, va mettre ce mot longuement, c'est que je pense sur le coup, ça devait être tellement dur pour les disciples. On est fatigué, on est là, et puis Jésus l'enseigne, en plus il enseigne longuement. Et donc au bout d'un moment, les disciples ils se disent, bon ça va, Jésus il a assez fait, on est au milieu de nulle part, le soleil commence à se coucher, il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors ils vont voir Jésus, ils disent, bon c'est bien Jésus, t'as enseigné, mais maintenant renvoie-les parce qu'il faut au moins qu'ils puissent aller à un endroit pour manger avant la nuit. Et puis là, Jésus, je pense qu'il les surprend, mais d'une manière, ça doit les clouer au sol. Donnez-leur vous-même à manger. Attends, quoi, Jésus? Non, j'ai pas bien entendu. Donnez-leur vous-même à manger. Attends, Jésus, viens. Viens voir. Je vais t'expliquer ça très simplement. Alors déjà, on est abattu, on a faim, on est triste. On est au milieu d'un désert, on n'a pas d'argent, et même si on avait d'argent, il faudrait au moins une année de salaire pour nourrir toutes ces personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors Jésus, il dit, qu'est-ce que vous avez? Combien vous avez de pain? De poisson? Ils font le tour, 1, 2, 5, bon, 5 pains, 2 poissons. Merci Jésus, ça fait un pain pour 1000 hommes. Avec ça, mes enfants, un poisson pour 2500. Jésus, je t'ai dit, c'est impossible. Et ces objections sont légitimes. Jésus ne leur les reproche même pas. Et je crois que 2000 ans plus tard, Jésus nous perturbe encore tout autant. Parce que moi, je suis persuadé que Jésus, aujourd'hui, nous dit ça. Donnez-leur vous-même à manger. Il vous le dit à vous, à Saint-Maur, dans vos arrondissements, vos villes respectives, donnez-leur vous-même à manger. Il le dit à moi dans le 95, il nous le dit à nous, en Ile-de-France, donnez-leur à manger. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, on connaît tellement bien ce passage. Non mais Jésus, ça va pas. Mais tu vois pas que moi-même, je suis complètement à bout? Tu vois pas que moi-même, je rentre le soir, je suis fatigué, je suis crevé, et puis il y a les gamins à la maison, il y a la voiture qui est en panne. Bon, c'est peut-être pas les problèmes de la plupart d'entre nous ici, mais vous voyez l'idée. Comment est-ce que moi, je donnerais à manger à quelqu'un, alors que moi-même, je suis dans la faim spirituellement? Ma vie spirituelle, elle n'est pas ce qu'elle devrait être, je sais très bien, ma vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, ma relation avec toi, c'est un combat exténuant. Comment est-ce que je pourrais probablement nourrir qui que ce soit autour de moi alors que je suis tellement dans le besoin moi-même? Et en tant qu'église, comment est-ce qu'on nourrirait notre ville alors qu'on est là en joint les deux bouts pour s'en sortir? Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah, combien est-ce que vous avez de pain? Toi, combien est-ce que t'as de temps? Qu'est-ce que t'as à me donner? 1 heure par semaine? Très peu de choses, ok, je prends. Moi, j'ai l'impression, si souvent, je sais pas comment c'est vous, mais j'ai tellement souvent l'impression d'avoir que 5 pains. Le temps que j'ai, la force que j'ai, les ressources, les moyens, l'amour que j'ai, ma connaissance, c'est comme 5 tout petits pains pour nourrir une foule. Vous connaissez ça? On est là. On est comme 5 pains. Et puis j'ai l'impression de n'avoir que 5 pains, et souvent j'ai l'impression de n'être moi-même, je suis que ces 5 petits pains. Ce que je suis, mon caractère, moi, mon être spirituel, avec ma relation à Dieu, etc., c'est que 5 pains, c'est rien du tout, c'est 5 pains, et là, il y a 5000 hommes, qu'est-ce que je vais faire? Ah ouais, des hommes de Dieu, alors ça, ouais, ça, il en faut, hein. En France, ouais, mais pas moi, Jésus, moi, je suis juste un chrétien moyen, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de garder la tête hors de l'eau. Des églises qui changent la France, qui a, ouais, ça on en a besoin, mais pas nous, Seigneur. Nous on est 20 petits croyants, on est jeunes, on n'a pas de dents. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Jésus? Et Jésus, il est là, il te dit, donnez-leur vous-même à manger. Et comment, Jésus, comment? Jésus sait exactement que les disciples à ce moment-là, ils n'ont pas ce qu'il faut. Et Jésus sait exactement que toi, en fait, t'as pas ce qu'il faut pour donner à manger à tes amis, tes voisins, tes collègues de travail, ta ville, notre région. Alors, on a des ressources finalement ridicules, inadaptées, et les disciples avaient la même chose. Mais Jésus, ça lui suffit. Alors il dit, ok, vous avez 5 pains, nickel. Allez-y, mettez-les par rangée, mettez-les par 50, mettez-les par 100. Et là, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Et ça, c'est mon passage préféré. Parce que qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Ils sont là, ils sont 5000 hommes dans le désert avec 5 pains. Mais ils obéissent, ils se mettent à l'œuvre. La foule s'est dit au début, c'était comme un troupeau désorganisé sans berger. Là, ils sont en train de l'organiser. Le signal qui est lancé est fort, le berger est là. Sauf que, à ce moment-là, humainement parlant, les disciples, c'est les plus gros imbéciles du monde. C'est la nuit qui tombe, ils sont dans le désert, ils n'ont pas mangé, ils sont en train d'installer une foule à table. C'est complètement fou. Et en plus, c'est dangereux pour eux, parce que ils sont en train de perdre du temps, ils sont en train de s'exposer à être complètement ridicules, ils sont en train de perdre le temps de la foule, et ils sont surtout en train de risquer prendre la foule pour les imbéciles, et quand ils vont se rendre compte, sûrement qu'il y a 5000 hommes qui vont leur tomber dessus. À ce moment-là, si Jésus n'intervient pas, c'est le désastre. À ce moment-là, si Jésus n'intervient pas, ils sont franchement foutus. Mais ils y vont, ils obéissent. Et c'est cette fois-là, quand ils font preuve, qu'ils sont en train de préparer l'action miraculeuse que Jésus va faire. Est-ce que toi, tu es prêt à faire un pas de foi comme ça? Est-ce qu'en tant qu'église, on est prêt à faire un pas de foi? Est-ce qu'on est prêt à se mettre dans des situations où soit Jésus l'intervient, soit on est franchement foutu. Hein. Soit Jésus, il fait quelque chose là, soit c'est le désastre. On passe pour des imbéciles. Est-ce qu'on est prêt à faire l'inventaire de nos ressources, nous rendre compte qu'elles sont ridicules, elles sont inadaptées, elles sont insuffisantes, mais on y va quand même, on obéit parce que Jésus a dit « Donnez-leur à manger. » Est-ce que je suis prêt à avoir compassion de la perdition des âmes autour de moi et de me mettre en chemin pour leur donner le pain de vie? Je pense sincèrement que cette fois-là, nous, Église occidentale du 21e siècle, on a besoin de la réapprendre. Francis Chan, dans son livre Crazy Love, dit que chacun d'entre nous devrait régulièrement se poser la question: dans quel domaine de ma vie suis-je en train de vivre par la foi? Et toi, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu es en train de vivre par la foi? Ou dans ta vie, tu es en train de te mettre dans une situation où tu t'attends à ce que Jésus intervienne? Donnez-leur vous-même à manger. Voilà ce qu'il dit Jésus. Alors les disciples, ils prennent le risque, tout le monde est installé, tout le monde attend. Et puis il y a Jésus qui prend ses 5 petits pains, qui rend grâce et qui commence à les distribuer. Alors j'imagine les disciples, ils font des tout petits bouts, ils font des tout petits bouts pour que tout le monde ait au moins un petit truc. Et ils commencent à distribuer et tout. Et puis tout le monde en a, il y en a encore. Et puis ils font une première tournée de rabe, une deuxième tournée de rabe, une troisième tournée de rabe. Et puis tout le monde mange, ils en mangent encore. Et il y en a encore et encore et encore. Et tout le monde a mangé. Et puis les gens, ils mangent alors qu'ils ont même plus faim. Et il y en a encore. Et à la fin, il en reste plus que ce qu'il y avait au début. Et c'est ça le miracle, mes amis. C'est ça le miracle. C'est que les disciples ont obéi. Et là, il vient de voir quelque chose de merveilleux se passer. Alors, quand nous nous mettons à l'œuvre pour obéir à Christ, quand nous faisons des choses qui humainement sont folles, nous allons voir Jésus à l'œuvre. Nous allons voir des victoires, nous allons voir des ouvertures pour parler à Jésus, nous allons voir des projets qui semblaient voués à l'échec se réaliser, nous allons voir des conversions. Je ne veux pas dire que ça va être la multiplication des pains tous les jours, ce n'est pas ce que je dis. Les disciples, il y a certains jours, ils marchaient et puis ils avaient tellement faim qu'ils étaient obligés d'arracher quelques grains de blé pour les manger. Mais ce que je dis, c'est que si on obéit avec foi, Dieu, il va faire quelque chose. On va le voir agir. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé au fait que Jésus, il n'avait pas du tout besoin des 5 pains pour nourrir la foule? Colossiens 1:16, c'est lui qui a créé toute chose. Il a créé l'univers, il a créé à partir de quoi? De rien du tout. Jésus s'est créé de rien, il sait faire quelque chose. En fait, Jésus est infiniment riche parce que non seulement il possède tout ce qui existe, tout l'univers est à lui, mais en plus, il pourrait à partir de rien faire exister une infinité de choses. En plus, il aurait pu nourrir ses foules avec du pain sans rien du tout. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Jésus a voulu se servir des 5 pauvres petits pains et des 2 poissons que les disciples lui ont mis. Et on a là une vérité primordiale, une vérité qui est merveilleuse et qui est effrayante, c'est que Jésus veut se servir de tes faibles ressources pour nourrir les foules. Dieu veut t'associer à son œuvre. Dieu, créateur du monde, juge éternel, roi tout-puissant, veut se servir de toi et de tes 5 petits pains pour nourrir le monde. Il n'aurait pas besoin de nous. Il pourrait très bien toucher le monde entier sans nous, mais il décide de se servir de nous. Quel privilège, quelle responsabilité. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Et cette vérité, on la connaît tous et on l'oublie tous. Et vu qu'on l'oublie, on ne se sent pas concerné. Il y a des gens qui se perdent et nous on est là, bah ouais, mais moi j'ai 5 pains, alors qu'est-ce que je dois faire? Bah non, je peux pas de toute façon. En fait, je crois qu'on n'a aucune idée de ce que Dieu pourrait faire de nous si on se mettait à sa disposition. On n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire avec 5 pains. Je pense que vous connaissez tous Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du 19e. Prince des prédicateurs, il était appelé. Ses livres sont encore aujourd'hui des best-sellers. Cet homme, c'était une figure clé du réveil en Grande-Bretagne au 19e siècle. Des dizaines, on dit même des centaines de milliers de personnes ont été touchées par Jésus à travers cet homme. Est-ce que vous savez comment il s'est converti? Ce jeune Charles Spurgeon, il était encore un ado, était en recherche de spiritualité. Alors régulièrement, il allait dans les grands temples de sa région pour entendre les prédicateurs exposer l'évangile, et ça ne le touchait pas du tout. Et voilà qu'un jour, au mois de décembre, il sort un dimanche comme d'habitude pour aller dans une petite église méthodiste. Il y a une grande tempête de neige, donc il arrive juste à aller jusqu'à cette église et puis il rentre à l'intérieur. Il se rend compte que la plupart des gens, ils ne sont pas venus à cause de la neige. Et puis il y a juste une petite dizaine de croyants qui se regardent dans le blanc des yeux et puis se rend compte qu'en fait même l'orateur n'a pas pu venir à cause de la neige. Puis le temps il passe, et puis au bout d'un moment, il y a quand même un petit vieux qui va se lever, qui va difficilement monter en chair. Et puis là, il va prendre sa Bible, il va prendre un verset, et il va difficilement, en bégayant, il va lire, le gars il a moitié illettré, et puis pendant une dizaine de minutes il improvise un petit message pendant lequel en gros ce qu'il dit c'est regarde à Jésus, il le dit de toutes les manières différentes, regarde à Jésus, regarde à Jésus, regarde à Jésus. Et Charles Spurgeon, quelques années plus tard, va dire lui-même qu'à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. Et il a vu, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et puis il va devenir cet homme, ce prédicateur qui va, par la grâce de Dieu, toucher la Grande-Bretagne. Dieu s'est servi de ce vieil homme illettré pour toucher tout un pays. Cet homme-là, il a tout compris. Il avait que 5 pains. Il savait même pas lire, le gars. Il savait à peine lire. Il a tout compris. Il a mis ses 5 pains à disposition de Jésus. Et Jésus l'a utilisé. En fait, vous savez ce que c'est notre problème ? C'est qu'on sous-estime Dieu. On sous-estime ce que Dieu peut faire avec nous, avec nos ressources. On sous-estime la puissance de Dieu. On sous-estime le désir de Dieu de nous utiliser. On sous-estime la compassion que Dieu a pour nos amis qui se perdent. Alors arrête de regarder à tes 5 pains. Arrête de regarder à tes faibles ressources et de t'apitoyer. Ne regarde pas non plus à la foule, mais regarde à Jésus. Jésus dit, donne-leur à manger. Il faut qu'on obéisse. Vous savez, j'ai même envie de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'on n'a que 5 pains. Gloire à Dieu parce qu'on est des petites églises et qu'on est des petits croyants. Gloire à Dieu parce que si on avait plus, on serait là, ouais, t'inquiète, Jésus, on gère, ouais, on va leur donner à manger, ça va bien se passer. Et sauf que là, on est un peu comme l'apôtre Paul et on est là et on est obligé de dire, bah, je me glorifie de mes faiblesses parce que c'est justement dans la faiblesse que se révèle la puissance de Dieu. Sa grâce nous suffit. Je suis convaincu que là, on est en train de toucher un point primordial pour l'avenir de la France. Parce que, je pense vous aussi, mais moi je suis passionné par ce que Dieu est en train de faire dans la France. Il y a des gens qui sont touchés, il y a des jeunes qui se lèvent, il y a des projets qui sont en train d'être construits. Il y a une nouvelle génération qui est là, qui a envie de voir Jésus à l'œuvre. Mais il faut dire qu'on a aussi un petit problème en France, c'est que on regarde beaucoup nos 5 petits pains. Alors on est là, ouais, mais le pourcentage de chrétiens, il est trop faible, nos églises, elles sont trop petites, il n'y a pas assez de dons, et puis on n'a pas beaucoup d'instituts, et puis on n'a pas beaucoup de gens à plein temps. Dans les autres pays, ça va mieux quand même. Ah ouais, alors là-bas, là, ils ont de quoi nourrir les foules. Hein. Là, ils ont les instituts, ils ont les bonnes églises, etc. Et alors nous, Jésus, c'est pas la joie. Hein. On a l'impression qu'on n'a pas assez. On regarde tellement à ce qu'on n'a pas, qu'on ne fait pas avec ce qu'on a. Et je pense que nous, jeunes, on a besoin d'arrêter de penser comme ça. Je pense qu'on a besoin de prendre nos 5 pains, on prend nos petites églises, on prend notre manque de méthode, notre manque de formation, etc. On l'amène à Jésus, on lui dit, sans toi c'est impossible, mais avec toi tout est possible. Je pense qu'on a besoin d'avoir du courage. Parce que nous on est la génération actuelle, on est l'exemple pour la génération qui vient. Et je pense qu'on doit leur montrer qu'on peut vivre comme ça. On doit monter des projets, vivre par la foi, réaliser des actions qui humainement sont complètement folles, mais qui sont spirituellement sages. Donc là, je vais arriver à mon dernier point du texte. Au début, on a quoi ? On a une foule errante, sans berger. À la fin, on a une foule rassasiée, organisée. Au début, on a nos 12 disciples qui sont là, ils ont faim, ils sont abattus, ils sont fatigués. À la fin, je pense qu'ils sont toujours fatigués, mais ils sont émerveillés, ils sont bénis. Et ils ont plus faim. 12 paniers de pain qui restent. 12 disciples, 12 paniers de pain qui restent. Un panier pour chacun. Dieu ne les a pas oubliés. Jésus ne les a pas oubliés. Et il ne t'oubliera pas non plus. Jésus n'oublie pas nos besoins légitimes. Mais en fait, vous savez ce que j'aime surtout avec ces 12 paniers ? C'est ce que ça me dit sur le cœur de Jésus. Ces 12 paniers de pain me font penser à un autre pain dont Jésus parle. Dans Jean, juste après l'évangile de Jean, juste après ce miracle, Jésus va dire ces fameuses paroles: « Je suis le pain de vie. Celui qui mangera de moi n'aura plus jamais faim. » Et puis le soir, avant d'être livré à la Sainte Seine, il prend le pain et dit: « Ce pain, c'est mon corps brisé pour vous. » Le pain de son corps. Jésus vient juste de rassasier 5000 hommes pour un court instant avec du pain. Par son sacrifice à la croix, Jésus va rassasier éternellement des millions d'individus. Le pain qui évoque son corps et donc sa grâce qui donne pour les hommes, cette grâce, il la donne de la même manière qu'il vient de donner le pain. Quand Jésus donne, il donne avec surabondance, il donne avec largeur, il donne de manière débordante, quasi dépensière. 12 paniers de pain qui restent. Est-ce que vous avez déjà pensé que si Jésus avait juste donné un goûter à ces 5000 hommes, avec 5 pains, ça aurait été un miracle incroyable? Mais il n'a pas fait que ça. Il leur a donné à manger à tous, suffisamment mangé, il leur a pété le bide, si on peut dire, et il restait 12 paniers. Et le pain de vie que Dieu nous donne, il le donne de la même manière, il en donne trop, il le donne d'une manière démesurée, avec surabondance. La Bible dit que sa grâce couvre nos péchés. J'ai l'image d'une nappe qui couvre les péchés, c'est vrai, mais la grâce de Dieu ne couvre pas nos péchés comme une nappe un peu courte, et il ne faut pas la soulever ou la tirer, sinon hop, le péché il réapparaît. La grâce de Dieu est largement suffisante. C'est trop. Il la donne à la limite du gaspillage. Alors peut-être là, tu te rends compte aujourd'hui que ça fait trop longtemps que tu as négligé l'ordre de Jésus de donner à manger aux gens autour de toi. Peut-être c'est parce que tu as trop regardé à tes 5 pains. Peut-être c'est parce que tu as trop regardé à tes propres besoins. Ben, je veux juste te dire que la grâce est là pour toi. Et cette grâce, elle est surabondante, elle est démesurée, elle est largement suffisante. Dieu, il ne regrette pas de t'avoir sauvé. Dieu ne regrette pas sa grâce envers toi. Dieu, il n'est pas en train de se dire, c'est vrai, je l'ai sauvé, mais attention, il n'est pas très très rentable. Hein. Non. Dieu, il ne regrette pas sa grâce envers toi. Alors mes amis, ce pain de la grâce, nous devons le partager. Et vous l'avez compris, je crois fermement que Jésus nous dit aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Et je voudrais juste qu'on prenne un petit temps de recueillement, de prière, et qu'on prenne un instant pour remercier Jésus. Et remercie pour cette grâce surabondante. Cette grâce qui donne comme ces 12 paniers de pain qui restent alors que personne n'a plus faim. Cette grâce qui couvre nos péchés, mais intégralement. Et puis, sont dans nos cœurs. Et puis si on se rend compte qu'on a arrêté d'obéir à cet ordre de Jésus, on va juste lui demander pardon. Peut-être faire ça individuellement en tant qu'église. Peut-être qu'on a été découragé parce qu'on avait l'impression que nos moyens sont insuffisants. Peut-être qu'on a manqué de foi. Peut-être que nos propres besoins sont devenus tellement importants qu'on a perdu notre compassion. Quel qu'il en soit, je voudrais juste qu'on se place devant Jésus et qu'on lui demande pardon et qu'on prenne un nouveau départ à ce niveau-là. Vous voulez bien? Voilà, on va prendre un temps de recueillement et puis je finirai par la prière. Père, je veux être moi le premier à confesser que trop souvent je suis tellement centré sur ma propre personne. Je suis tellement centré sur mes propres problèmes, sur ma fatigue, sur mes besoins. Et j'oublie les gens autour de moi. J'oublie leurs besoins, j'oublie leur perdition. Je confesse que je manque énormément de foi et j'ai l'impression que c'est vrai, ta parole elle dit que tu veux te servir de moi, mais au fin de compte, je suis pas assez bon. Je manque de foi que tu es infiniment plus puissant que mes erreurs et mes faiblesses. Je manque de foi que tu veux et que tu vas te servir de moi. Juste te remercier pour ta grâce qui est là, qui nous relève, qui nous pardonne. Seigneur, on n'est pas digne de toi, mais merci de ce que tu veux toucher ce monde à travers nous. Pourquoi tu ne fais pas toi-même? Pourquoi tu n'envoies pas des anges pour annoncer l'évangile? Je sais pas. Merci parce que tu veux te servir de nous. Et je te prie qu'on puisse vraiment tous les jours garder en tête cette priorité que tu nous poses de donner à manger aux hommes autour de nous. Thank you.